Virgile, l'Énéide, livre 4. Didon, la reine de Carthage, a écouté avec passion Énée faire le récit de ses aventures. Cependant, la reine, déjà en proie au tourment d'une passion violente, nourrit en secret la blessure de son cœur et brûle d'un feu caché qui la dévore. La valeur du héros, la splendeur de sa race reviennent sans cesse à sa pensée. Les traits d'Énée ainsi que ses paroles demeurent profondément gravés dans son âme et le trouble qui l'agite refuse à ses yeux les douceurs du sommeil. Déjà l'aurore, chassant les ombres humides de la nuit, éclairait la terre du flambeau de Phébus, lorsque Didon, égaré par l'amour, s'adresse en ces termes à sa sœur, confidente de ses pensées. « Anna, ma sœur, quelles images troublent mon repos, jettent dans mon âme incertaine une terreur inconnue. Quel est ce nouvel autre reçu dans nos demeures? Quelle noblesse dans ses traits? Qu'il est grand par le cœur et par les armes? Oui, je le crois, si ce n'est point une illusion. » Il est du sang des dieux. Toujours la crainte décèle une âme dégénérée. Hélas, par quel dessein il fut traversé? Dans les guerres qu'il racontait, quel péril n'après affronter son courage? Si je ne gardais au fond du cœur la résolution bien prise et irrévocable de n'enchaîner à personne par le lien conjugal, depuis que la mort a déçu l'espoir de mes premiers feux, ainsi la couche et le flambeau de l'hymen ne m'étaient devenus odieux. C'est la seule faute peut-être où j'aurais pu succomber. Oui, ma sœur, je l'avoue, depuis le trépas cruel de Psyché, mon époux, depuis que son sang, par le crime de mon frère, arrosa nos pénates, cet étranger est le seul qui ait fléchi ma rigueur et fait chasseler ma constance. Je reconnais les traces de mes premiers feux. Mais que la terre ouvre sous mes pas ses abîmes, que le puissant maître des dieux me précipite avec sa foudre dans le séjour des ombres, des pâles ombres de l'érèbe et dans la nuit profonde, avant que je te viole, ô pudeur, et que Java franchisse de tes lois. Il emporta mes amours, celui qui le premier s'unit à mon destin, qu'il les ait avec lui et qu'il les garde dans sa tombe. Elle dit, et les pleurs ont inondé son sein. Anne répond, « Ô ma sœur, toi qui m'es plus chère que la vie, veux-tu donc consumer toute ta jeunesse dans la solitude et dans les ennuis? Renonces-tu à connaître la douceur d'être mère et les joies de l'amour? Crois-tu que des cendres des mines enfermées au tombeau s'inquiètent de cette fidélité ? Que jusqu'ici nul époux en tir ou dans la Libye n'ait pu fléchir ta douleur, que tu aies dédaigné le fier Arbas et tant d'autres chefs que nourrit la belle liqueuse Afrique, je le veux. Mais dois-tu combattre aussi un penchant qui te plaît? Ne songes-tu point au pays où tu as fixé ta demeure? Vois autour de toi d'un côté les villes des Gétules, peuple indomptable dans la guerre, les Numides sans frein, les Styrtes inhospitalières, et de l'autre les brûlants déserts, et les Barcéens qui s'étendent au loin leur fureur. Parlerais-je de la guerre qui se prépare dans la ville de Tyr et des menaces de ton frère? Oui, je le crois, c'est sous les auspices des dieux, c'est par la faveur de Junon que les vents ont conduit sur nos bords la flotte des Troyens. Ô ma sœur, combien tu verras ta ville et ton empire s'accroître par un tel hymen? Et par combien de hauts faits s'élèvera la gloire de Carthage, associée aux armes troyennes? Implore seulement la faveur des dieux, et après l'avoir obtenue par les sacrifices d'usage, prodigue les bienfaits de l'hospitalité et allègue des causes de retard. La tempête est déchaînée sur les ondes, l'orageux Orion, les vaisseaux brisés et l'inclémence du ciel. Ce discours achève d'enflammer le cœur brûlant de Didon, fait entrer l'espérance dans son âme irrésolue et rompt les derniers liens de la pudeur. D'abord, elles vont dans les temples pour y chercher de représages. Elles immolent, suivant l'usage des brebis choisies à Cérès législatrice, à Apollon, à Bacchus et avant tout à Junon qui préside au nœud de l'hymen. Didon elle-même, la belle Didon, tenant une coupe dans la main droite, verse le vin entre les cornes d'une blanche génisse ou, devant les images des dieux, s'avance religieusement vers les autels chargés d'offrandes. Sans cesse, elle recommence les sacrifices et d'un regard avide, penché sur le flanc ouvert des victimes, elle interroge leurs entrailles palpitantes. Hélas, vaine science des augures, que servent les vœux et les temples contre les fureurs de l'amour? Cependant, une flamme subtile et dévorante circule dans les veines de Didon, et une blessure secrète vit au fond de son cœur. Elle brûle l'infortuné, et dans le transport qui l'égare, elle parcourt toute la ville. Telle une biche imprudente atteinte d'une flèche dont la percée de loin dans les bois de la crête, le berger qui la poursuivait emporte à l'insu du chasseur le trait qui l'a blessé. Dans sa fuite, elle parcourt les bois, les bocages du dicté, le roseau mortel reste attaché à ses flancs. Tantôt la reine conduite aînée au milieu de ses remparts lui montre et les richesses de Sidon et sa ville prête à le recevoir. Elle commence à parler et s'arrête au milieu de son discours. Tantôt, au déclin du jour, elle appelle de nouveaux banquets et, dans son délire, veut entendre encore une fois le récit des malheurs d'Ilion et reste encore une fois suspendue aux lèvres du héros. Et quand la nuit les sépare, quand la lune obscurcie à son tour à voiler sa lumière, quand les astres à leur déclin invitent au sommeil, seule, elle gémit dans son palais désert et va s'asseoir sur le lit qu'aîné vient de quitter. Elle le voit absent. Absent, elle l'écoute encore. Quelquefois, charmée par la ressemblance, elle presse sur son sein le jeune Ascagne et cherche à tromper, s'il se peut, son fatal auteur. Et son fatal amour. Déjà dans Carthage, les tours commencées ne s'élèvent plus. Les jeunes Tyriens ne s'exercent plus aux armes. Le port et les remparts destinés à défendre la ville restent abandonnés. Tous les travaux demeurent suspendus, et les murs qui se levaient menaçants, et les machines qui allaient toucher le ciel. Dès que l'épouse chérie de Jupiter voit la reine en proie au mal qui la dévore, sans que le soin de sa renommée mette un froid à son ardeur, elle aborde Vénus et dit « Eh bien, vous l'emportez, voilà pour vous et votre fils une noble victoire, un trophée glorieux. C'est un grand et mémorable effet de votre puissance qu'une femme seule soit vaincue par la trahison de deux divinités. Non, je ne me trompe point. Vous redoutez les remparts que je protège. » Et le séjour de la superbe Carthage éveille vos soupçons. Mais quel sera le terme de nos divisions? Où tendent maintenant les grands débats? Que ne cimentons-nous plutôt par l'hymen, une paix éternelle? Tout ce que votre âme souhaitait, vous l'avez. Didon aime, elle brûle. Et jusqu'à la moelle des eaux, les feux de l'amour la consument. Régnons donc avec un pouvoir égal sur ces deux peuples réunis en un seul. Qu'il soit permis à Didon de se soumettre à un époux troyen et de remettre entre vos mains les Tyriens pour la dot de leur reine. Vénus comprit que ce discours artificieux avait pour but de transporter à Carthage l'empire promis à l'Italie. « Qui serait assez insensé, dit-elle, pour refuser vos offres et pour préférer avec vous la guerre si toutefois votre projet peut s'accomplir et si la fortune le seconde. Mais les destins me laissent incertaine. Et j'ignore si Jupiter veut qu'une même cité réunisse les Tyriens et les Troyens, s'il approuvera le mélange des deux nations et leur alliance. Vous êtes l'épouse de Jupiter, ben essayez, si vous voulez, de fléchir son âme par vos prières. Allez, je vous suivrai. Ce soin me regarde, reprend la reine des dieux, mais apprenez en quelques mots comment peut réussir cette grande entreprise. Votre fils, et avec lui Didon, que l'amour consume, se prépare à chasser demain dans les forêts, dès que Phébus, levant son front brûlant, éclairera l'univers. Tandis que les chasseurs courront de tous côtés et entoureront les bois de leurs filets, j'assemblerai de sombres nuages qui verseront des torrents de pluie et de grêle et j'ébranlerai tout le ciel des éclats du tonnerre. Enveloppés d'une nuit profonde et soudaine, tous les chasseurs furent dispersés dans la forêt. Aînée et Didon trouveront dans la même grotte un refuge. Je serai présente, et si je suis assurée de votre consentement, je les unirai par les liens durables du mariage. Hyménée sera présent. Loin de s'opposer à ce dessein, Sidéré l'approuve et sourit de la ruse inventée par Junon. Cependant, l'aurore se lève et abandonne l'océan. Au premier rayon du soleil, l'élite des jeunes Tyriens sort des portes de Carthage. Les cavaliers massyliens s'élancent, portant les filets, les toiles, les épieux au large fer, et suivi de la meute à l'odorat subtil. Les chefs tyriens attendent au seuil du palais la reine qui tarde encore à sortir de son appartement. Brillant de pourpre et d'or, son coursier dans son ardeur impatiente mord le frein et tocument. Enfin, Didon s'avance au milieu d'un cortège nombreux. Sa chlamyde tyrienne est entourée d'une éclatante broderie. Son carquois est d'or, des tresses d'or rassemblent ses cheveux, et une agrafe d'or retient sa robe de pourpre. Les Phrygiens et le joyeux Iule accompagnent la reine. Aîné lui-même, qui les surpasse tous en beauté, se place à ses côtés et réunit les deux cortèges. Tel Apollon quitte la froide Lycie et les rives du Xanthe pour Délos, son île maternelle, où il renouvelle les pompes sacrées, et mêlés et confondus, les Crétois, les Dryopes et les Agartis, peints de diverses couleurs, bondissent joyeusement autour de ses autels. Le dieu s'avance sur le sommet du Cynthe, le laurier presse mollement sa chevelure flottante, où s'entrelace un réseau d'or, et sur ses épaules, les traits de son carquois retentissent. Telle et non moins éclatante, et la marche du héros, la même beauté, la même noblesse, brille sur son visage. Dès qu'on est arrivé sur les hautes montagnes et dans les repères inaccessibles, les chèvres sauvages, chassées de leurs roches escarpées, se précipitent du haut des monts. Les cerfs abandonnent les lieux élevés, s'élancent en troupe vers la plaine, et de leurs pieds rapides soulèvent la poussière. Le jeune Ascagne prêche joyeusement son ardent coursier au milieu des vallons, devance à la course tantôt ceci, tantôt cela, et souhaite de rencontrer parmi ses troupeaux sans défense un sanglier écumant ou un lion descendu de la montagne. Cependant, un grand bruit commence à gronder dans les airs, et bientôt la nue verse en abondance une pluie mêlée de grêle. Dispersés par les froids, les Tyriens, la jeunesse troyenne et le petit-fils de Vénus, cherchent dans les champs divers abris contre l'orage. Des torrents se précipitent du haut des monts. Didon et le chef des Troyens arrivent à la même grotte. Aussitôt, la terre et Junon, qui président à l'humaine, donnent le signal. Des feux brillèrent au ciel, complices de cette union, et les nymphes au sommet des montagnes poussèrent des hurlements. Ce jour fut la première cause de la mort et des malheurs de Didon. Ni la pudeur, ni le soin de sa renommée ne la touche plus. Ce n'est plus un feu clandestin qu'elle nourrit, elle l'appelle Hymen et couvre sa faute de ce nom. Soudain, la renommée vole dans les villes de la Libye, la renommée de tous les fléaux le plus rapide. Elle croît par sa vitesse et acquiert des forces en courant. D'abord petite et craintive, bientôt elle s'élève dans les airs, son pied touche la terre et sa tête se cache dans la nue. On dit qu'irritée de la vengeance des dieux, la terre enfanta cette dernière sœur de Cérès, d'Encelade, et lui donna des pieds légers et de rapides ailes. Monstre horrible, énorme, qui, sous toutes les plumes de son corps, cache, ô prodige, autant d'yeux, toujours vigilants, autant de langues, autant de bouches bruyantes, autant d'oreilles attentives. La nuit et le vol entre le ciel et la terre, faisant entendre un bruit perçant au milieu des ténèbres, et jamais le doux sommeil n'abaisse ses paupières. Le jour, sentinelle infatigable, elle veille, assise sur le faîte des palais ou sur le sommet des tours, et de là elle sème l'épouvante dans les cités, opiniâtre messagère de l'erreur et du mensonge, aussi bien que de la vérité. Elle se plaisait alors à répandre parmi les peuples mille bruits confus, et proclamait également le vrai et le faux. Elle annonçait qu'Énée, issu du sang troyen, était arrivé à Carthage, que la belle Didon daignait s'unir à lui, que pour eux l'hiver entier s'écoulait mollement dans le luxe des fêtes, et qu'enchantés par un honteux amour, ils oubliaient les soins de leur empire. Telles étaient les rumeurs que l'odieuse déesse semait de bouche en bouche. À l'instant, elle dirige son vol vers le palais d'Iarbas, et par ses discours enflamme son cœur irrité. Fils de Jupiter Ammon et d'une nymphe enlevée au pays des Garamantes, Iarbas avait consacré à son père 100 temples immenses et 100 autels dans ses vastes états. Là, le feu sacré brûlait sans jamais s'éteindre, là, le sol s'engraissait du sang des victimes, et les portiques étaient ornés de guirlandes de fleurs. Hors de lui, indigné d'un bruit qui l'offense, on dit qu'au milieu des images des dieux, adressant des vœux sans nombre à Jupiter, Iarbas l'implora en ses larmes. Jupiter tout-puissant, toi que maintenant dans ces bosquets le maure assis sur des lits somptueux honore par l'offrande des libations de Bacchus, tu vois mon affront. Et quoi, les foudres que tu lances n'inspirent-ils qu'une vaine terreur? Et ces feux qui, cachés dans la nuit, épouvantent nos âmes, ne font-ils entendre qu'un vain bruit? Une femme qui errait sur nos frontières, bâtit sur un sol acheté à prix d'argent une humble ville. Elle tient de moi le rivage aride qu'elle possède aux conditions que j'ai prescrites. Et repoussant mon alliance, elle reçoit Énée pour maître dans son royaume. Et maintenant, ce nouveau Paris, avec sa suite efféminée, le front saint de la mitre phrygienne, les cheveux inondés de parfums, jouit en paix de sa conquête. Est-ce en vain que je porte mes offrandes dans tes temples et que je me glorifie de ma naissance? Ainsi parlait Iarbas, embrassant les autels. Le dieu entend sa prière et arrête ses regards sur la ville de Carthage, où les deux amants oubliaient les soins de leur gloire. Alors il appelle Mercure et lui donne ses ordres. « Va, cours, mon fils, appelle les zéphyrs. Descends et vole vers la terre. Va trouver le prince troyen qui, arrêté maintenant à Carthage, oublie l'empire que lui promettent les destins. Porte-lui d'un vol rapide mes paroles souveraines. Ce n'est point là ce héros qui nous a promis la belle Vénus, sa mère. Ce n'est point dans ce but qu'elle l'arracha deux fois de la fureur des Grecs. Elle nous annonçait un guerrier digne de régner sur la belliqueuse Italie, grosse de puissants empires, digne du sang illustre de Teucer et dont la race devait ranger l'univers sous ses lois. Si la gloire d'un avenir si grand n'enflamme pas son courage, s'il refuse de la mériter par ses travaux, enviera-t-il à son fils Ascagne les remparts et la puissance de Rome? Quel est son projet? Et quel espoir l'arrête chez un peuple ennemi? Ne songe-t-il plus au champ de l'Avignon et à la postérité qui l'attend dans l'Ausonie? Qu'il reprenne sa course sur les mers. Telle est ma volonté souveraine. Toi, porte-lui ce message. Il dit, et prompt aux ordres de son père, Mercure attache à ses pieds les brodequins d'or, dont les ailes, aussi rapides que les vents, l'emportent sur la terre et sur les mers. Il prend le caducée, c'est par lui qu'il ramène des enfers les pâles ombres ou qu'il les plonge dans le triste Tartare. C'est par lui qu'il donne ou ravit le sommeil et rouvre les yeux fermés par la mort. C'est par lui qu'il modère les vents et traverse la nuit orageuse. Il vole et déjà il découvre le sommet sourcilleux et les flancs escarpés de l'infatigable Atlas qui soutient le ciel sur sa tête. D'Atlas dont le front chargé de ténébreuses vapeurs et couronné de pins est battu sans cesse des vents et des orages. Ses épaules blanchissent sous la neige entassée, de son menton se précipitent des fleuves écumants et sa barbe raidie se hérisse de glaçons. C'est là que le dieu du Silène, se balançant sur ses ailes, s'arrête. Puis, s'élançant de tout le poids de son corps, il glisse vers la mer, semblable à l'oiseau qui vole autour des rivages et des rochers poissonneux, et de son aile rase la surface des flots. Tel s'éloignait d'Atlas, son aïeul maternel, le dieu du Silène, planète entre le ciel et la terre et fendait les vents en effleurant les rivages sablonneux de la Libye. À peine de ses pieds ailés a-t-il touché les cabanes voisines de Carthage, il aperçoit Aînée fondant de nouveaux remparts et construisant de nouvelles demeures. Le jaspe rayonne en étoiles sur son épée. De ses épaules tombe un manteau brillant de la pourpre de Tyr. C'est un présent de Didon qui, de sa main entrelaçant l'or flexible, en avait nuancé la trame. Le dieu l'aborde soudain. Et quoi? Tu jettes les fondements de l'altière Carthage? Esclave d'une femme, tu élèves pour elle une ville magnifique, oubliant les destinées promises et l'empire qui t'est réservé? C'est le roi des dieux lui-même, mondeur souverain des cieux et de la terre, qui du brillant Olympe m'envoie vers toi. C'est lui qui m'a ordonné de fendre rapidement les airs pour le porter ses ordres. Quels sont tes desseins? Et quel espoir t'enchaîne, oisif, au sol de la Libye? Si la gloire d'un si grand avenir ne peut t'émouvoir, si tu fuis les travaux qu'exige le soin de ta propre renommée, vois Ascagne qui grandit, et ne laisse point échapper l'heureuse fortune promise à Iule, à qui sont les royaumes de l'Italie et le sceptre de Rome. » Ainsi parla le dieu, et soudain, se dérobant aux yeux mortels, il disparut au loin comme une ombre légère. Éperdu à cet aspect, Aînée reste muet et interdit. Ses cheveux se dressent d'horreur et sa voix expire sur ses lèvres. Frappé de cet avis important et de l'ordre des dieux, il brûle de fuir et d'abandonner ses douces contrées. Mais hélas, que faire? En quels termes osera-t-il aborder la reine éperdue? Que lui dire et par où commencer? Son esprit, vivement agité de pensées contraires, se partage et s'égare en 100 projets divers, sans pouvoir se fixer sur aucun. Après avoir longtemps hésité, il se résout à prendre le parti qu'il croit le meilleur. Il appelle Mnesthée, Sergeste et le valeureux Cloanthe. Que la flotte, dit-il, soit équipée en secret, que les Troyens, rassemblés au rivage, s'arment en silence, et que la cause de ce mouvement imprévu reste ignorée. Lui, cependant, tandis que la généreuse Didon ignore son dessein et ne s'attend pas à voir rompre de tels nœuds, il tentera de l'aborder, cherchera pour lui parler le moment le plus favorable et le moyen le plus adroit. Tous avec joie obéissent à ses ordres et se hâtent de les exécuter. Mais la reine, oh, qui pourrait tromper une amante, a pressenti la ruse et surpris la première les mouvements qui se préparent, disposée qu'elle est à tout craindre. C'est encore l'impitoyable renommée qui apprend à Didon éperdu, et l'armement de la flotte et les apprêts du départ. Égarée, en proie aux fureurs de Vénus, elle court dans toute la ville. Telle au retour des orgies triennales, une bacchante, émue à l'aspect des symboles sacrés, ivre du dieu qui l'agite, erre sur le Cithéron, qu'il appelle par ses nocturnes clameurs. Enfin, elle l'aborde la première et lui parle en ces termes. As-tu donc espéré, perfide, pouvoir me cacher un tel forfait et quitter sans rien dire mon royaume? Quoi? Si notre amour, ni cette main que nous nous sommes mutuellement donnée, ni Didon, prêt à mourir d'un trépas cruel, n'ont pu te retenir? Que dis-je? Sous des astres orageux, tu prépares ta flotte et te hâtes de courir sur les mers où règnent les Aquilons? Cruel! Si tu recherchais pas ces terres étrangères et des demeures inconnues, et que Troie fût encore debout, irais-tu chercher Troie à travers une mer orageuse? Est-ce donc moi que tu fuis? Par mes larmes, par cette main que je presse, puisque dans mon malheur il ne me reste plus d'autre ressource, par les nœuds qui nous unissent, par cet hymen commencé, je t'en prie, si jamais j'ai mérité de lui quelque reconnaissance, si quelque chose de moi te fut doux, aie pitié d'une maison qui tombe si tu pars. Et s'il est dans ton cœur encore quelque accès à mes prières, je t'en conjure, renonce à ce funeste projet. Pour toi, je me suis attiré la haine des peuples de Libye et de leurs rois nomades, et le courroux des Tyriens. Pour toi, ma pudeur s'est éteinte, en même temps que cette renommée qui seule m'élevait jusqu'aux astres. À qui m'abandonnes-tu, mourante, chère hôte, puisque ce seul nom est tout ce qui me reste de mon époux? Que dois-je désormais attendre? Que Pygmalion, mon frère, vienne renverser mes remparts, ou que le Gétulie-Arbas m'entraîne captive? Du moins, si avant de fuir, tu me laissais un gage de notre amour. Si je voyais, jouant dans mon palais auprès de moi, quelque petite aînée qui me retraça les traits de son père, je ne me croirais pas tout à fait trahi et délaissé. Elle dit. Docile aux ordres de Jupiter, aînée tient les yeux baissés et s'efforce de comprimer dans son cœur le trouble qui l'agite. Enfin, il répond en peu de mots. Reine, Je ne nierai point les bienfaits dont vous m'avez comblé, et votre bouche me les rapporter sans crainte. Le souvenir d'Élise me sera cher, tant que je me souviendrai de moi-même, tant qu'un souffle de vie animera mon corps. Dans cette grave conjecture, je me bornerai pourtant à peu de mots. Je n'ai jamais compté, soyez-en sûr, partir furtivement, vous cacher ma fuite. Mais jamais non plus je n'ai promis d'allumer les flambeaux de l'hymen. Et ce n'est pas pour former cette alliance que je suis venu. Si les destins m'eussent permis de régler ma vie à mon gré et de mettre fin à mes soucis selon mes vœux, fidèle avant tout au culte d'Ilion et des précieux restes de ma patrie, je relèverai le palais de Priam et j'aurai bâti pour les vaincus une Pergame nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est dans la grande Italie que m'appelle Apollon de Crina. C'est l'Italie que les oracles de la Lycie m'ordonnent d'occuper. Là est mon amour, là est ma patrie. Si les murs de Carthage et si l'aspect d'une ville de Libye ont pu vous retenir, vous que Tyr a vu naître, pourquoi envier aux Troyens l'empire de l'Ausonie? Nous aussi, il nous est permis de chercher les royaumes étrangers. Mon père Anchise, chaque fois que les ombres humides de la nuit enveloppent la terre et que le feu des astres s'élève dans les cieux, m'apparaît en songe, terrible menaçant, et m'ordonne de partir. Et la vue de mon fils Ascagne m'avertit sans cesse du tort que je fais à une tête si chère, en le privant du royaume de l'Hespérie et des champs promis par les destins. En ce moment encore, l'interprète des dieux envoyé par Jupiter, j'en atteste votre tête et la mienne, est venu d'un vol rapide à travers les airs m'apporter ses ordres. J'ai vu moi-même le dieu, resplendissant de lumière, entrer dans vos murs et mon oreille a recueilli ses paroles. Cessez donc d'irriter par vos plaintes votre douleur et la mienne. Ce n'est point ma volonté qui me porte en Italie. Tandis qu'il parlait, Didon le regardait d'un air furieux, et roulant en silence des yeux égarés, elle le parcourt tout entier d'un regard indigné. Puis sa colère éclate en ces mots. Non, tu n'es pas le fils d'une déesse. Non, Dardanus n'est pas l'auteur de ta race perfide. L'affreux Caucase t'engendra de ses durs rochers, et les tigresses de l'Hyrcanie t'ont nourri de leur lait. Car enfin qu'ai-je à dissimuler, et quel plus grand outrage pourrait m'être réservé? A-t-il seulement gémi de mes pleurs? A-t-il tourné ses yeux vers moi? Attendri, a-t-il versé une larme, a-t-il eu pitié de son amante? N'est-ce pas là le comble de la cruauté? Ni la grande Junon, ni le fils tout-puissant de Saturne ne voient ses perfides d'un œil équitable. La bonne foi n'est plus nulle part. Jeté par la tempête sur ce rivage, dénué de tout, je l'ai accueilli insensé. J'ai partagé mon empire avec lui, j'ai sauvé sa flotte perdue, j'ai soustrait ses compagnons à la mort. Ah, dans la colère qui m'enflamme, je me sens transporté par les furies. Maintenant, c'est Apollon, le dieu des augures, ce sont les oracles de Lycie, c'est l'interprète des dieux envoyé par Jupiter lui-même qui, à travers les airs, lui apporte cet ordre affreux. Et voilà de quel soin s'occupent les dieux. Voilà le souci qui trouble leur quiétude. Je ne te retiens plus. Je ne cherche plus à réfuter tes paroles. Va, poursuis l'Italie à la merci des vents et cherche ton empire à travers les ondes. Si les dieux vengeurs des crimes ont quelque pouvoir, Tu trouveras, je l'espère, ton supplice au milieu des écueils, et souvent tu invoqueras le nom de la malheureuse Didon. Absente, je te poursuivrai avec des torches funèbres, et quand la froide mort aura dégagé mon âme de mon corps, mon ombre t'assiégera en tout lieu. Misérable, tu porteras la peine de ton crime. Je l'apprendrai et le bruit en viendra jusqu'à moi dans le séjour des mânes. À ces mots, elle rompt tout à coup l'entretien. Accablée, elle fuit le jour qui l'importune et se dérobe aux yeux des nés, au moment où, tremblante et irrésolue, il s'apprêtait à répondre longuement. Les femmes de la reine la soutiennent et l'emportent défaillante sous ses riches lambris et la déposent sur sa couche. Cependant, Thénée voudrait calmer sa douleur et consoler ses ennuis. Il gémit et son âme est ébranlée par un très vif amour, mais il veut exécuter les ordres des dieux et va rejoindre sa flotte. Alors les Troyens pressent avec plus d'ardeur les travaux. Ils traînent à la mer les vaisseaux laissés à sec sur le rivage, et la carène enduite de bitume flotte sur les ondes. On apporte des forêts voisines, des rames garnies encore de leur feuillage, et des mâts sont façonnés. Tant est grande l'ardeur du départ. On voit de tous les côtés de la ville les Troyens courir au port. Ainsi, quand prévoyant l'hiver, les fourmis ravagent un grand amas de blé et le portent sous leur toit, le noir bataillon traverse la plaine, et par un sentier étroit sous l'herbe voiture son butin. Les unes, le dos chargé d'un énorme grain, s'avancent avec effort. Les autres surveillent l'arrière-garde et gourmandent les retardataires. Tout dans les trois sentiers s'agite et se meut avec ardeur. Quelles furent alors tes pensées, ô Didon ? Quel gémissement quand du haut de ton palais, tu voyais au loin le rivage s'agiter et que devant toi toute la mer retentit de nos confuses clameurs. Cruel amour ! À quoi ne forces-tu pas le cœur des mortels ? Elle est donc réduite à recourir encore aux larmes, à tenter encore la prière. L'amour rend sa fierté suppliante, elle ne veut pas mourir sans avoir tout épuisé. « Anna, dit-elle, tu vois que tout s'empresse sur le rivage, ils sont accourus de toutes parts. Déjà la voile appelle les vents et les matelots joyeux ont couronné les poupes. Si j'ai pu attendre cette grande douleur pour récompense, ô ma sœur, je pourrais la supporter. Cependant, encore un dernier office à l'infortuné Didon. Pour toi seul, le perfide avait des égards. Même il te confiait ses plus secrètes pensées. Seul, tu savais choisir le moment favorable pour obtenir de lui un doux accueil. Va, ma sœur, cours, aborde en suppliant ce superbe ennemi. Dis-lui que je n'ai pas dans l'Olide juré avec les Grecs la ruine des Troyens, que je n'ai pas envoyé mes vaisseaux contre Pergame. Dis-lui que je n'ai point disposé à percer les cendres ni outragé les mânes d'Anchise, son père. Pourquoi donc, si cruel envers moi, ferme-t-il l'oreille à mes paroles ? Où court-il ? Que du moins il accorde à sa malheureuse amante une faveur dernière, qu'il attende une fuite plus facile et des vents plus favorables. L'hymen qui l'a trahi, je ne réclame plus. Je ne demande plus qu'il renonce pour moi à son beau Latium et à l'empire qui lui est promis. Je ne demande qu'un vain délai, qu'une trêve, et le temps de calmer ma folle passion. Dis-lui d'attendre, que, vaincu par ma douleur, j'ai appris à la supporter. C'est la dernière grâce que j'implore. Prends pitié de ta sœur, et quand il m'aura accordé, je t'en serai reconnaissante jusqu'à la mort. Telles étaient les prières et tels les gémissements que sa malheureuse sort porte et reporte à Aïné. Mais ni les pleurs ne peuvent l'ébranler, ni toutes ses prières le fléchir. Les destins s'y opposent. Un dieu ferme à la pitié l'oreille du héros. Ainsi, quand au sommet des Alpes les Aquilons conjurés luttent contre un chêne antique durci par les ans, et dans leur souffle impétueux s'efforcent de le renverser, l'air mugit, le tronc s'ébranle, et jonche au loin le sol de son feuillage, mais l'arbre s'attache au rocher, et autant son front altier s'élève vers les astres, autant ses pieds descendent vers l'empire des morts. Tel le héros est assailli longtemps par les plaintes et par la prière. Sa grande âme est émue de douleur, mais sa volonté demeure inflexible, et dans ses yeux roulent de vaines larmes. Alors la malheureuse Didon, accablée sous le poids de sa destinée, invoque la mort. L'aspect de la voûte des cieux la fatigue et l'ennui. De noirs présages la fermisent dans son projet d'abandonner la vie. Elle a vu, tandis qu'elle chargeait d'offrandes les autels où fumait l'encens, elle a vu, chose horrible, l'eau sacrée se noircir et le vin du sacrifice se changer en un sang de mauvais présages. Elle seule a vu ce prodige, elle le tait à sa sœur. C'est peu. Dans son palais s'élevait un temple de marbre consacré à son premier époux. Elle l'honorait d'un culte particulier. Il était orné de toisons blanches comme la neige et de guirlandes de feuillage. Et là, quand la nuit couvre la terre de ses ténèbres, Didon croit entendre les cris, la voix de Chiché qui l'appelle, et sur le toit du palais, le hibou solitaire répétait son chant de mort et traînait son lit lugubre en gémissement. En outre, d'anciennes et nombreuses prédictions l'épouvantent par de terribles avertissements. Le cruel aîné lui-même vient troubler ses songes et irriter sa fureur. Elle se voit toujours seule et abandonnée, toujours errante, sans guide, dans de longs chemins, et cherchant ses Tyriens d'immenses déserts. Tel, dans son délire, Penthée voit les Euménides, un double soleil et deux Thèbes s'offrir à ses regards, ou tel, le fils d'Agamemnon, Oreste, se montre sur la scène quand il fuit devant sa mère armée de torches et de noirs serpents, vers le temple où les furies vengeresses l'attendent, assise sur le seuil. Lorsqu'égarée par son désespoir et vaincue par la douleur, Didon a résolu de mourir, elle médite en elle-même le moment et les apprêts de son trépas. Puis, abordant sa sœur affligée, elle cache sous un air calme son projet et fait briller l'espérance sur son front serein. Félicite-moi, ma sœur, j'ai trouvé le moyen de le ramener ou de m'affranchir de mon amour. Vers les bords de l'océan, au lieu où le soleil descend dans les ondes, aux confins de l'Éthiopie, il est un lieu où le grand Atlas soutient sur ses épaules le ciel parsemé d'étoiles étincelantes. De là est venue dans nos murs une prêtresse massilienne qui gardait le temple des Hespérides, veillait sur les rameaux de l'arbre sacré et nourrissait le dragon en répandant un miel liquide et des pavots assoupissants. Elle peut, dit-elle, par ses enchantements, affranchir les cœurs de leurs peines ou verser dans d'autres cœurs les soucis amers. Elle peut arrêter les fleuves dans leur cours, changer dans les cieux la marche des astres. Elle évoque les mânes pendant la nuit. Tu entendras, ma sœur, la terre mugir sous ses pieds. Tu verras descendre à sa voix les arbres des montagnes. J'en jure par les dieux, par toi-même, ô ma sœur, et par la tête qui m'est si chère, C'est malgré moi que j'ai recours à l'art des enchantements. Toi, dans la cour intérieure du palais, dresse secrètement un bûcher. Sur le faîte de ce bûcher, dépose avec les arbres que le perfide a laissés suspendus près de sa couche tout ce qui me reste de lui et ce lit d'hymen qui m'a perdu. Il faut anéantir tout ce qui rappelle le souvenir du parjure. C'est le conseil, c'est l'ordre de la prêtresse. À ces mots, elle se tait et la pâleur couvre son front. Anna, cependant, est loin de soupçonner que sa sœur cache, sous l'apparence d'un sacrifice, les apprêts de sa mort. Son esprit ne peut concevoir de si grande fureur. Elle ne craint point un désespoir plus grand qu'à la mort de Psyché. Elle prépare donc ce que sa sœur a ordonné. Cependant, vers le lieu le plus retiré du palais, où s'élève le bûcher formé de chênes et de pins résineux, la reine décore l'enceinte de feuillages et de rameaux funèbres. Elle place au faîte du bûcher, sur le lit nuptial, la dépouille d'aînée, le glaive laissé par lui, l'image du perfide, car elle n'ignore pas le sort qui l'attend. Alentour, les autels sont dressés. La prêtresse, les cheveux épars et d'une voix tonnante, invoque les 300 divinités du Thénard, et l'Érèbe et le Carou, et la triple Hécate, la Vierge aux trois visages. Elle répand une onde qui simule les eaux de l'Arverne. Elle exprime des sucs noirs et résineux, d'herbes velues, que des faux d'airain moissonnèrent à la clarté de la lune. Elle y joint cette tumeur arrachée du front d'un coursier naissant et soustraite à l'avidité de la cavale. Didon elle-même, à côté des autels, un pied nu, la robe dénouée, tenant dans ses pieuses mains la farine sacrée, atteste, avant de mourir, les dieux et les astres témoins de sa destinée. Et s'il est quelque divinité qui s'intéresse aux amants trahis, elle implore sa justice et sa vengeance. Il était nuit, et les mortels fatigués goûtaient un doux sommeil. Les bois et les mers orageuses faisaient silence, et les astres au milieu de leur cours roulaient sans bruit. C'était l'heure où tout se tait dans les champs, où les troupeaux, les oiseaux aux mille couleurs, et ceux qui habitent les lacs limpides, et ceux qui s'abritent sous les buissons, oubliaient dans l'ombre et le silence, sous le charme d'un doux sommeil, leurs peines et leurs fatigues. Mais plus de repos pour l'infortunée Didon. Pour elle, plus de sommeil. Ni ses yeux, ni son cœur ne peuvent goûter le calme de la nuit. Ses maux redoublent. Son amour se réveille furieux et son âme flotte en proie aux orages de la colère. C'est ainsi qu'elle s'attache de plus en plus à son projet et telles sont les pensées qu'elle roule dans son cœur. Eh bien, que faire? Irais-je courir après un tel affront? M'exposer au mépris de mes anciens prétendants? Irait suppliante implorer l'hymen de ces rois nomades que j'ai tant de fois dédaignés pour époux? Ou bien suivrai-je les vaisseaux d'Ilion pour subir honteusement la loi des Troyens? Sans doute j'ai à me féliciter de les avoir secourus naguère, et le souvenir de mes bienfaits s'est longtemps conservé dans leur cœur reconnaissant. Les suivre. Mais quand je pourrais le vouloir, qui me le permettrait? Qui recevrait dans ces vaisseaux superbes une femme odieuse? Malheureuse, ou ne connais-tu pas les parjures, accoutumées de la race de Laomédon? Que ferais-je d'ailleurs? Irais-je seule et fugitive, accompagnée des matelots triomphants? Et pourquoi ne pas les poursuivre moi-même avec tous mes vaisseaux, avec tous mes guerriers? Mais ce qu'il me fallut par tant d'efforts arracher de la ville de Tyr, oserais-je les entraîner encore sur les mers? Et leur ordonnerais-je de livrer les voiles au vent? Ah, plutôt meurs comme tu l'as mérité, et que le fer termine tes douleurs. C'est toi, ma sœur, qui vaincue par mes larmes et trop complaisante pour mon fol amour, c'est toi qui as été la première cause des maux qui m'accablent et qui m'a livré à mon ennemi. Connais-je pu, comme les autres des forêts, mener une vie exempte d'hymen et ignorer de pareils tourments? Hélas, elle ne fut point gardée la foi promise aux mânes de Siché. Telles étaient les plaintes que laissait échapper sa douleur. Cependant, Aînée, résolue à partir, après avoir tout disposé pour se mettre en route, dormait sur la poupe élevée de son navire. L'image du dieu qui s'était déjà montré à ses regards lui apparaît en songe sous les mêmes traits et lui renouvelle les mêmes avis. Semblable en tout à Mercure, cette image a sa voix, son teint, sa blonde chevelure et son corps brillant de jeunesse. Fils d'une déesse, peux-tu en pareille circonstance te livrer au sommeil? Ne vois-tu pas quel danger t'environne? Insensé, tu n'entends pas le souffle heureux du zéphyr? Décidée à mourir, cette femme médite des artifices et de cruels forfaits et flotte en proie au transport d'une bouillante colère. Et tu ne hâtes pas ta fuite quand tu peux fuir encore? Bientôt, tu verras la mer sillonnée par des vaisseaux ennemis, les torches menaçantes luire de tous côtés et les flammes couvrir tout le rivage, si demain l'aurore te retrouve attardée sur ses bords. Pars donc, sans différer. Toujours la femme est un être variable et changeant. Le dieu dit et se mêle aux vapeurs de la nuit. Effrayée de cette vision soudaine, Aînée s'arrache au sommeil et presse ses compagnons. Éveillez-vous, hâtez-vous, guerriers, vite, saisissez les rames et déployez les voiles. Un dieu envoyé du bout de l'éther vient de nouveau presser notre fuite et nous ordonne de couper les câbles. Nous te suivons, dieu puissant, qui que tu sois, nous sommes heureux d'obéir encore à tes ordres. Oh, sois-nous propice et fais briller au ciel des astres favorables. Il dit, arrache du fourreau son glaive foudroyant, et frappe avec le fer le câble qui retient son navire. La même ardeur anime les Troyens, tous s'ébranlent et se précipitent. Soudain, ils s'éloignent du rivage. La mer disparaît sous leur flotte, ils battent de toute leur force les flots écumants et fendent l'onde azurée. Déjà, quittant la couche dorée de Titan, l'aurore versait sur la terre ses premières clartés, quand la reine, du haut de son palais, voyant blanchir l'aube du jour et la flotte s'éloigner sous des vents propices, reconnut que le rivage était désert et le port sans rameur. Trois et quatre fois de sa main, elle meurtrit son beau sein et arrache ses blonds cheveux. « Oh, Jupiter ! » s'écrie-t-elle, « il fuira donc. Cet étranger se sera joué de nous et de notre empire. Et l'on ne courra point aux armes, et les vaisseaux ne s'élanceront pas du port, et Carthage tout entière ne se met pas à sa poursuite. Allez, volez la flamme à la main, tendez les voiles et fatiguez les rames. Oh, mais que dis-je ? Où suis-je ? Et quel transport, mes gars ? Malheureuse Didon, sa perfidie te touche enfin. c'est quand tu lui donnais ton sceptre qu'elle eût dû te toucher. Voilà donc cette foi si vantée. Voilà celui qui porta, dit-on, les pénates de Troie et chargea sur ses épaules son père accablé par les ans. Et je n'ai pu déchirer son corps en lambeaux et le disperser dans les ondes. Je n'ai pu égorger ses compagnons et son ascaille lui-même et lui en faire un horrible festin. Mais dans ce combat, la fortune pouvait être douteuse. N'importe, qu'ai-je à craindre, résolu à mourir. J'aurais porté la flamme dans son camp, brasé ses vaisseaux, immolé le fils et le père, et toute leur race, et moi-même avec eux. Soleil, qui de tes feux éclaire toutes les choses de ce monde, et toi, Junon, témoin confidente de mes tourments, Hécate, toi que dans les carrefours des cités, on invoque par de nocturnes hurlements, et vous, furie vengeresse, et vous, dieu d'Élise mourante, écoutez ma voix. Frappez les criminels d'un châtiment mérité et accueillez ma prière. S'il faut que le scélérat arrive au port et qu'il échappe à la fureur des ondes, si c'est la volonté de Jupiter, si tel est le terme fixé par les destins à ses voyages, que du moins, assailli par les armes d'un peuple belliqueux, chassé de son asile, arraché aux embrassements d'Hyle, il mendie un secours étranger et qu'il voie les tristes funérailles des siens, et qu'après avoir subi la loi d'une paix honteuse, il ne jouisse ni du sceptre, ni de la douce lumière, mais qu'il meure avant le temps et qu'il gisse sur la terre, privé de sépulture. Voilà mes derniers vœux, voilà les dernières paroles qui s'échappent avec mon sang. Et vous, ô Tyriens, poursuivez d'une haine éternelle sa race et tous ses descendants. Tels sont les présents que mon ombre attend de vous. Jamais d'amitié, jamais de paix entre les deux peuples. Qu'il sorte de mes cendres un vengeur, qui le fer et la flamme à la main poursuivent le fils de Dardanus, et maintenant, et plus tard, et toujours, tant qu'il aura la force de combattre. Rivage contre rivage, flot contre flot, arme contre arme, et puissent nos derniers neveux se combattre encore. Elle dit, et roule dans son âme mille pensées impatientes, de briser la trame d'une vie odieuse. Elle s'adresse à Barcée, nourrice de Siché, car la sienne avait laissé sa cendre dans le pays de ses pères. Chère nourrice, va chercher Anna, ma sœur. Dis-lui qu'elle se hâte de répandre sur son corps l'eau lustrale, qu'elle vienne, amenant avec elle les victimes et les offrandes prescrites pour l'expiation. Toi-même, sainte à tête du bandeau sacré, je veux achever le sacrifice que j'ai préparé au dieu des enfers, je veux mettre un terme à mes peines et livrer au feu du bûcher l'image du Troyen. Elle dit, et la vieille s'efforce autant que l'âge lui permet de hâter ses pas. Alors, frémissante et dans la fureur de son affreux projet, Didon, les yeux égarés et sanglants, les joues tremblantes et semées de taches livides, et le front déjà tout pâle de la mort qui s'approche, s'élance dans l'intérieur du palais, monte furieuse au sommet du bûcher, dégage du fourreau l'épée du Troyen, présent qui ne fut point destiné à cet usage, puis regardant ses vêtements phrygiens et ce lit si connu, elle donne un moment à ses larmes et à ses pensées, s'étend sur la couche et prononce ses derniers mots. Dépouille qui me fut de si chère, tant que le destin et les dieux le permirent, recevez mon âme et affranchissez-moi de mes tourments. J'ai vécu, j'ai rempli la carrière que le sort m'avait dressée, et maintenant mon ombre glorieuse va descendre chez les morts. J'ai fondé une ville puissante et j'ai vu s'élever mes remparts. J'ai vengé mon époux et puni le crime d'un frère inhumain. Heureuse, hélas, trop heureuse, si jamais les vaisseaux phrygiens n'avaient touché mes rivages. Elle dit, et imprimant ses lèvres sur sa couche, « Quoi, mourir sans vengeance ? Oui, mourons, oui, même à ce prix, il m'est doux de descendre chez les ombres. Que, fuyant sur les mers, le cruel Troyen repaisse ses yeux de flamme de ce bûcher, et qu'il emporte avec lui les présages de ma mort. » À peine elle avait dit ses suivantes, la voit tomber sous le coup mortel. Elle voit le glaive fumant de sang et ses mains défaillantes. Des cris s'élèvent jusqu'aux voûtes du palais. La renommée sème la nouvelle de cette mort dans la ville épouvantée. Partout on entend que plaintes lamentables, que voix gémissantes et hurlements de femmes éplorées. L'air retentit de clameurs funèbres. On dirait qu'un vainqueur terrible envahit et renverse Carthage ou l'antique Sidon, et que les flammes roulent en fureur sur les demeures des hommes et sur les temples des dieux. À ce bruit, Anna, éperdue et pleine de terreur, hâte ses pas tremblants. Déchirant son visage et se meurtrissant le sein, elle accourt au milieu de la foule, et appelant par son nom sa sœur mourante. « C'était donc là ton destin, ma sœur. Tu voulais me tromper. Et voilà donc ce que me préparait ce bûcher, ses fers et ses autels. De quoi me plaindrais-je d'abord dans cet abandon ? As-tu dédaigné ta sœur pour compagne de ta mort ? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé à partager ton destin ? Le même fer, la même douleur, le même instant eût terminé notre vie. Mes mains ont élevé ce bûcher, et j'ai donc invoqué les dieux paternels pour que tu puisses ainsi mourir seul en mon absence. Tu as anéanti d'un seul coup, et toi, ma sœur, et moi, et ton peuple, et le sénat de Didon, et la ville fondée par toi. Donnez cet Olympide que je lave sa blessure, et s'il erre encore un dernier souffle sur ses lèvres, que ma bouche puisse le recueillir. Elle dit, et déjà elle avait franchi les hautes marches du bûcher. Déjà elle serrait dans ses bras et réchauffait en gémissant contre son sein sa sœur expirante, et avec ses vêtements elle étanchait les flots d'un sang noir. Didon essaie péniblement d'entr'ouvrir des yeux appesantis qui se referment soudain. Le sang s'échappe en bouillonnant de sa blessure. Trois fois, avec effort, en s'appuyant sur le coude, elle se soulève. Trois fois, elle retombe sur sa couche. De ses yeux égarés, elle cherche la lumière des cieux et gémit de l'avoir trouvée. Alors, la puissante Junon, ayant pitié de ses longues douleurs et de son pénible trépas, envoie Iris du haut de l'Olympe pour dégager cette âme qui luttait contre ses liens. Car la mort de Didon n'était ni ordonnée par le destin, ni méritée, mais l'infortuné périssait avant le temps, victime d'une fureur soudaine, et Proserpine n'avait pas encore enlevé à son front le blond cheveu, ni dénoué sa tête à l'empire de Styx. Déployant donc dans les airs ses ailes brillantes et humides de rosée, qui reflètent au soleil les nuances de mille couleurs, la messagère des dieux vole et descend au-dessus de la tête de Didon. Je vais, suivant l'ordre qui m'est donné, porter à Pluton ce gage qui lui appartient, et je te délivre des liens du corps. Elle dit, et sa main coupe le cheveu. Soudain, toute la chaleur se dissipe, et la vie de Didon s'échappe dans les airs.